Et cette semaine, c'est avec Monseigneur Ulrich, l'archevêque du diocèse de Lille. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
On commence avec un événement pour l'Église, événement qui aura lieu samedi prochain, la célébration de l'appel décisif des catéchumènes que vous célébrerez en l'église Saint-Martin de Croix. Cette célébration, ça marque une étape pour ces futurs chrétiens dans leur chemin vers les sacrements. Ça reste un moment fort pour vous?
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est un moment fort pour, je pense, un moment fort pour l'Église, peut-être pas assez connu de l'ensemble de l'Église. Mais chaque année, nous le faisons dans une paroisse différente pour essayer de sensibiliser les paroisses les unes après les autres à ce, j'allais dire, ce phénomène que dans le monde, la société très sécularisée dans laquelle on vit et dans laquelle il est difficile d'affirmer une foi et d'en parler parce qu'on est quand même bien vite stigmatisé.
Aujourd'hui, vous trouvez?
Ouais. Il me semble, oui, que c'est pas toujours facile, que beaucoup ont la solution aux lèvres de dire « ne parlons pas de cela, comme ça on se disputera pas, mais ne parlons pas de religion ». Or, je crois un peu le contraire, je pense que, de fait, si les gens pouvaient exprimer ce qu'il y a au fond de leur cœur, de plus profond, ils iraient un peu mieux, voilà. Et donc, il y a des gens qui, à travers ce nuage-là, quand même émergent et ont la joie de pouvoir dire je sais en qui je mets ma confiance et c'est le Seigneur que je suis en train de découvrir et tout d'un coup il a été là sur ma route. Alors pour moi ça se marque en plusieurs étapes. Bien sûr c'est l'accompagnement du service diocésain du catéchuménat, c'est les lettres que je reçois de ces personnes au moment de leur demande de baptême, d'eucharistie et de confirmation. Ce sont des adultes en majorité entre 20 et 40 ans. Mais on a de temps en temps une personne de 72 ans, j'ai eu une lettre il y a quelques jours, qui dit, ben voilà, il y a longtemps que je pensais le faire, puis je croyais que c'était trop tard, voilà.
Ce sont des lettres qui vous interpellent parfois
oui,
aussi.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment c'est une joie de lire ces lettres. C'est une, ça pose effectivement des questions. C'est-à-dire que ça pose des questions, on se dit, mais comment ça se fait que ces gens en sont passés à travers l'atmosphère dans laquelle nous vivons et ont surgi à la vie spirituelle et ont l'audace de dire voilà, le Seigneur, certains sont plus marqués par la force de l'Esprit-Saint en eux, d'autres par la rencontre de Jésus dans l'Évangile, d'autres par Dieu le Père. Bon, mais ils ont fait sur leur chemin, ils ont fait sur leur chemin une rencontre, voilà.
Mais vous avez l'air d'insister sur le fait que l'environnement est plutôt un terrain de ronce qu'autre chose en ce moment.
En ce moment, je pense que de fait, ça respire la violence, le conflit, la difficulté de s'affirmer, le brouillage d'une grammaire spirituelle qui aide pourtant à vivre. Et là, moi, je découvre que des gens, tout d'un coup, en entendant parler de Jésus, ils ont tout d'un coup des mots nouveaux pour parler de leur vie.
Alors, on va parler chiffres toujours sur ces appels. Dans le diocèse de Lille, 90 adultes qui vont devenir chrétiens par le baptême, 30 qui feront leur première communion, et puis 120 qui seront confirmés. Alors, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça dit? Ils sont en augmentation? Quels sont les sacrements, par exemple? Peut-être certains, aujourd'hui, parlent davantage.
Alors, c'est de fait des chiffres en augmentation. Les chiffres du baptême des petits-enfants et les chiffres du mariage, par exemple, sont en diminution partout. Ça c'est vrai. Mais la découverte de la foi chrétienne par des adultes à l'occasion de leur et qui se traduit par une demande de baptême, ou bien la redécouverte de quelque chose qu'ils avaient déjà en eux, qui fait qu'ils disent j'ai été baptisé, mais j'ai jamais suivi le catéchisme et j'ai pas fait ma première communion, ou bien qui découvrent tout d'un coup au milieu de leur vie que il leur manque le signe de la confirmation. Ça c'est en augmentation.
Alors, on change de sujet, on va sur une thématique un peu plus grave, celui de la violence contre les édifices religieux, des profanations contre des lieux de culte, des lieux de paix pour tous, des profanations qui ont blessé aussi beaucoup de croyants dans leur foi, commises la plupart du temps par des mineurs, mais pas seulement. Ça touche au, ça interpelle aussi sur le rapport au sacré. Est-ce que aujourd'hui il y a une limite qui a été passée, ou est-ce que finalement ce sont des événements qui ont toujours existé?
Oh, il y a des événements qui ont toujours existé, bien sûr. Ça, c'est la profanation d'un sanctuaire, la profanation de l'Eucharistie. C'est une histoire qu'on rencontre tout au long de la vie de l'Église, et c'est d'ailleurs pourquoi il y a des règles qui touchent ceux qui l'accomplissent, qui parfois ne savent pas très bien ce qu'ils font parce qu'ils connaissent pas parfaitement la vie chrétienne contre laquelle ils s'insurgent, contre laquelle ils font violence, connaissent pas plus la vie du judaïsme, ils connaissent pas plus la vie de l'islam. Et bon, c'est une espèce de haine qui est pas très raisonnée, qui est pas très explicite, pas très clair, voilà. Donc, mais il y a aussi dans l'Église des règles pour le retour à l'usage d'un lieu qui a été profané. On va ensemble prier devant le lieu qui a été, dans le lieu qui a été profané, pour dire ben, il a été profané, il y a eu une offense qui a été faite au Seigneur, et il faut demander au Seigneur pardon pour cette offense que nous-mêmes n'avons pas voulu, que quelqu'un d'autre a faite, mais que à laquelle nous savons que d'une certaine façon nous avons, pour laquelle nous savons que nous avons à demander pardon au Seigneur. Parce que ce qui est sacré, c'est pas l'objet Église. Ça n'est pas le ciboire dans lequel il y a les hosties. Ça n'est pas ce qui est sacré, c'est la personne de Dieu, et c'est la personne de l'homme qui est visée. Parce que la réalité qui est touchée, c'est pas d'abord un objet. La réalité qui est touchée, c'est le signe que nous mettons derrière cet objet. Et le signe que nous mettons derrière cet objet, c'est la personne de Dieu. Le signe que nous mettons derrière cet objet, c'est la personne sacrée qui est l'homme et qui se sent blessé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent dans les églises et qui sont blessés, qui ne sont pas forcément des grands pratiquants, mais qui sont aussi blessés de ce que l'on est blessé l'Église, parce qu'ils y viennent trouver la paix que Dieu donne. Et donc, il est normal qu'on soit... qu'on se révolte devant ceci. Alors, on doit se révolter de la même façon quand on met en cause les personnes d'origine juive, les personnes qui ne sont pas forcément non plus toutes des croyantes, mais qui disent on a blessé notre foi, on a blessé notre vie, on a blessé l'homme que nous sommes, et Dieu ne peut pas accepter qu'on blesse l'homme qu'il aime, qu'il a fait et qu'il soutient.
On parle dans ce numéro d'Entretien avec un évêque, justement, de la réunion des évêques pour la prévention des abus sexuels sur les mineurs et les adultes vulnérables. Une réunion sous forte pression qui s'est tenue à Rome pendant 3 jours jusqu'au 24 février. Alors, cette rencontre au sommet, elle a été souhaitée par le pape François avec la convocation des présidents de conférences épiscopales. C'est pour ça que vous-même, vous n'y étiez pas. François s'adresse aux évêques qui sont... aux avant-postes de la lutte contre les abus sexuels. Des victimes aussi ont été appelées à témoigner. Comment est-ce que ça a résonné chez vous? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une suite logique? Est-ce que c'est véritablement nouveau, cette rencontre?
Ben, je pense que c'est un signe important que donne le pape à cette occasion. C'est-à-dire, il dit, je vois bien que ça n'est pas un mal localisé. Et c'est un mal qui peut gangréner l'Église partout. Il y a des lieux qui ont été désignés par l'actualité de ces dernières années. Il y a quelques pays qui ont été très fortement touchés, mais c'est un mal qui peut toucher toute l'Église parce que la maltraitance des jeunes. La maltraitance sexuelle des jeunes, elle est aussi le signe des violences dont tout homme est capable et dont nous, comme croyants chrétiens, comme témoins de l'Évangile, nous devrions vraiment nous dispenser. Nous devrions être extrêmement attentifs à ne pas provoquer la vie de jeunes. Et qui ça rejaillit tellement sur leur vie de bout en bout que on s'en aperçoit 30 ans, 40 ans, 60 ans après. Moi, je peux dire personnellement que depuis des mois, je reçois régulièrement des victimes. Je ne peux pas faire autre chose que de les écouter, parce que la plupart de ceux qui viennent me voir parce qu'ils ont été touchés par des prêtres qui sont aujourd'hui morts. Je ne peux pas avoir d'action publique contre eux.
Pour ceux qui ne sont pas morts, vous pouvez faire quelque chose.
Bien sûr, c'est-à-dire ça, on l'a fait, mais on connaît les cas, on les a eus depuis quelques années. On connaît les cas, j'ai suspendu, j'ai interdit d'exercer le ministère à un certain nombre, enfin à quelques-uns.
Vous avez invité à contacter la justice ?
Toujours, oui. Et en fait, en réalité, quand je l'ai appris, quand j'ai su les choses, j'ai soit dit « vous devez vous dénoncer vous-même à la justice », soit je l'ai fait. Et il y en a certains, quand j'ai appris et que j'ai rencontré le prêtre lui-même, en sortant, quand il est sorti de mon bureau, j'ai appelé le procureur immédiatement. Plusieurs fois, je l'ai fait. Voilà. Donc, je ne peux pas me transformer en auxiliaire de la police et de la justice, mais il y a des moments où on est bien obligé de ne pas laisser passer et de ne pas donner le sentiment qu'on a laissé passer. Donc,
aujourd'hui.
Plus que jamais. J'avoue que je l'ai fait depuis le début. La première histoire à laquelle j'ai été sensibilisé depuis que je suis évêque, c'est il y a plus de 15 ans, et j'avais non pas prévenu directement, mais les personnes qui étaient venues me dénoncer un prêtre, j'avais dit, si vous avez quelque chose à dire, il n'est pas le plus utile de venir me le dire à moi, parce que moi je n'ai pas de pouvoir de police et de justice, mais allez le dire au procureur, ou aller dans un commissariat de police faire une déclaration. Ce que des personnes ont fait, et quand j'ai été interrogé quelques semaines plus tard, j'ai dit voilà ce que je dis. Et je me rappelle très bien que le gendarme qui m'interrogeait m'a dit, vous n'avez pas besoin de nous le dire, monseigneur, nous savons que c'est ça que vous dites. Nous l'avons su par les personnes qui sont venues déposer plainte.
Et ce premier cas dont vous parlez, est-ce que vous avez pris une mesure canonique ?
Immédiate, oui. Immédiate.
Merci, Monseigneur Ulrich, pour cet entretien avec un évêque. Merci à vous. À bientôt.
Merci.